Le psaume 57, versets 2 à 4. Aie pitié, ô Dieu, aie pitié de moi, car mon âme se retire vers toi. Je me réfugie sous l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, à Dieu qui accomplit son œuvre pour moi. Il enverra des cieux et me sauvera. Il rendra honteux celui qui me poursuit. Dieu enverra sa bonté et sa vérité. Dieu enverra sa bonté et sa vérité. Bonjour à tous, frères et sœurs, dans le Seigneur. Encore un autre sabbat. Et aujourd'hui, il y a un sujet qui se présente à nous qui est d'une importance toute particulière. Aujourd'hui, nous voulons établir le lien entre l'amour miséricordieux de Dieu et l'importance de la vérité. Si vous avez été à l'écoute, ne serait-ce que par notre lecture biblique, il se peut qu'il y ait quelque chose qui se soit déclenché en vous. Mais si ce n'est pas le cas, je m'en vais tenter par la grâce de Dieu de le déclencher en chacun de nous, à travers ces paroles que nous avons entendues et toutes les autres paroles qui sont contenues dans la parole de Dieu vis-à-vis de ce sujet, de l'importance de la vérité. Est-ce que la vérité est importante? Est-ce que la vérité, est-ce important pour nous de connaître la vérité? Et plus encore, la vérité dépend-elle de nos conceptions de la vérité ou la vérité est-elle indépendante de nos opinions? La vérité change-t-elle avec les années? Où la vérité est-elle la même d'année en année, de siècle en siècle, de millénaire en millénaire? Ce sont des questions pour stimuler notre entendement, pour que, au fur et à mesure que nous avançons maintenant, que nous nous lançons dans cette étude d'aujourd'hui, nous aurons été préparés à recevoir des réponses. Que cela vienne en réponse à notre fort intérieur, aux interrogations de notre âme. Et donc, je vous pose la question, frères et sœurs, encore une fois, est-ce que la vérité est importante? C'est une question importante, n'est-ce pas, en elle-même? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons ça et là, sans même aborder le sujet du christianisme moderne. Nous voyons ça et là au sein des cercles qui professent la foi au message des trois anges, un élan d'aspiration à la vérité, mais un manque d'un message complet. Il y a un manque du message complet des trois anges. Nous allons aborder ces questions-là aujourd'hui. Je ne vais pas simplement affirmer de par moi-même, mais à travers la parole de Dieu et les écrits de l'esprit de prophétie, nous allons explorer qu'est-ce qu'il en est et quelle est la réponse que Dieu nous donne. Pas qu'un homme nous donne, pas qu'un homme croit, pas qu'un homme suppose, mais que Dieu dit. Qu'est-ce que le Seigneur a dit sur le sujet? Et au sujet de la vérité, il y a quelque chose de très important qui nous faut comprendre. C'est la réalité vivante vis-à-vis de l'homme. Qui commence à venir en réponse à cette question de l'importance de la vérité. Si vous vous tournez maintenant avec moi vers le passage de Jérémie, chapitre 10 et verset 23, vous voyez très clairement un aspect de cette réponse. Jérémie, chapitre 10, verset 23. « Éternel, je connais que la voix de l'homme ne dépend pas de lui et qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme qui marche de bien diriger ses pas. » Qu'avons-nous lu? Il n'est pas au pouvoir de l'homme qui marche de bien diriger ses pas. Donc l'homme peut marcher, oui, il peut avancer, mais il n'est pas dans son pouvoir de bien diriger ses pas. Il a la capacité d'avancer, mais ce n'est pas dans son pouvoir de bien diriger ses pas. C'est un fait extraordinaire et absolument impératif pour nous de comprendre cela. Je ne peux pas, ce n'est pas dans mon pouvoir, dans mon propre pouvoir, de bien diriger mes pas. Maintenant, Dieu donc, à la lumière de ces choses-là, il se présente au pécheur contrit, mais qui est incapable de diriger ses propres pas, et il lui dit, il lui déclare ces paroles de Jérémie, chapitre 33, versets 8 et 9. Parce que nous avons exploré l'amour de Dieu, et nous avons sondé combien Dieu se soucie du pécheur. Nous avons vu que Dieu a une affection toute profonde pour le pécheur qui est telle qu'il a daigné sacrifier Jésus et Jésus a fait lui-même le sacrifice de lui-même portant nos péchés et se chargeant en son corps et en son âme de nos iniquités parce qu'il aime le pécheur, parce qu'il m'aime à un tel point qu'il ne se satisfait pas de dire « détruis-le, il est allé trop loin ». Non, il va jusqu'au plus bas fond de ma propre expérience et vient me chercher tel le berger, sa brebis égarée. Nous avons vu que c'est ça son amour. Et à la lumière de ce souvenir de ce que Dieu est, dans l'expérience, les souffrances, l'agonie de Jésus qui était le garant, qui était le sacrifice expiatoire, qui a porté le fardeau de nos péchés, de la culpabilité de nos péchés et du châtiment juste qu'il advient à ces péchés-là, à la lumière, lorsque nous réfléchissons à ces choses-là et qu'elles nous reviennent en mémoire, mais que nous réalisons qu'il n'est pas dans notre pouvoir de bien diriger nos pas, ce pécheur-là, en réalisant, en pensant à cela, il se dit, je te connais Dieu, je te connais, mais je ne me connais pas moi-même, je réalise qu'il n'y a pas, il n'y a pas en moi de pouvoir pour bien faire. Quoi que je puisse faire, je ne peux pas bien faire. Et c'est pour cela que le pécheur, réalisant ses efforts et ses échecs dans tous ses bons efforts de sa bonne volonté, réalisant qu'il échoue quand bien même il croyait être bien disposé, qu'il réalise que ses promesses sont comme des cordes de sable, le pécheur contrit parce qu'il se souvient de l'amour de Dieu. Maintenant, Dieu lui parle. Maintenant, en lien avec tout cela que nous avions vu dans nos études précédentes, maintenant Dieu lui parle. Et Dieu dit quelque chose de tout particulièrement intéressant que nous voulons relever pour en retirer une leçon probante. Dans Jérémie chapitre 33, verset 8. Et il parle ici au sujet de la maison de Juda, qui s'est séparée depuis bien des années maintenant de la maison d'Israël en ce temps-là. Des 10 tribus, il y avait Juda et Benjamin qui étaient à Jérusalem et qui essayaient tant bien que mal de préserver la vraie foi, mais qui eux aussi étaient rebelles. Et qui eux aussi tombaient dans les pièges de la tentation et qui eux aussi se montraient infidèles à Dieu. Et il leur dit, verset 7, « Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël et je les rétablirai comme auparavant, verset 8, et je les nettoierai de toute iniquité qu'ils ont commise contre moi. Je pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils ont péché et se sont révoltés contre moi. Et ce sera pour moi un renom plein de joie, de louange et de gloire auprès de toutes les nations de la terre qui apprendront tout le bien que je vais leur faire et seront effrayés et épouvantés de toute la prospérité et de tout le bonheur que je vais leur donner. » Verset 6. Quel est ce bonheur qu'il donnera à son peuple qu'il se déclare prêt à pardonner et à nettoyer de toutes leurs iniquités? Voici, je leur donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai, je leur découvrirai une abondance de paix et de vérité. Donc ici, relevez avec moi ces choses. Dieu parle de son amour miséricordieux, n'est-ce pas? De son amour qu'il a manifesté en Jésus-Christ pour nous pécheurs. Et ici, il parle au sujet de la maison d'Israël et de Juda. Il dit que à eux, il pardonnera leurs péchés. Mais de qui parle-t-il? Vous vous souviendrez dans Jacques chapitre 1, l'apôtre Jacques parle aux frères chrétiens et il leur dit aux 12 tribus dispersées, salut. Aux 12 tribus dispersées d'Israël, salut. Donc ici, Dieu est en train de parler dans Jérémie chapitre 33 de l'Israël, de la dispensation chrétienne, de l'Israël, la continuité de l'Israël selon la foi, selon la promesse. Et il dit, en parlant de nous maintenant, je les nettoierai de toute iniquité, je pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils ont péché et se sont révoltés contre moi. Donc maintenant, à vous et moi qui sommes pécheurs et qui venons à Dieu repentant, avec un cœur contrit et repentant et réalisant que je ne peux pas me bien diriger mes propres pas, Dieu dit cela. Je te nettoierai de toute iniquité. Comme il disait à Zacharie, à Joshua dans Zacharie chapitre 3, dans cette vision de sacrificateur et de Satan. Et ici, dans cette vision, il dit, ôtez-lui ses vêtements sales et revêtez-lui d'habits magnifiques. Et il dit à Joshua, voici, j'ai ôté ton péché. Et c'est la même déclaration qu'il fait ici à Israël, je les nettoierai de toute leur iniquité, et ce sera pour moi un renom plein de joie, de louange et de gloire, auprès de toutes les nations de la terre qui apprendront tout le bien que je vais leur faire. Quel bien il leur fera? De toute la prospérité et de tout le bonheur que je vais leur donner. Et qu'est-ce que c'est ce bonheur dont il parle? Cette prospérité à laquelle il fait allusion, verset 6. Voici, je leur donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai. Je leur découvrirai une abondance de paix et de vérité. Une abondance de paix et de vérité. Il est en train de dire, voici ce que je vais leur faire quand ils reviendront à moi de tout leur cœur. Voici ce que je vais faire pour eux. Voici la prospérité que je vais leur accorder et le bonheur que je vais leur donner. Il dit, je leur donnerai la guérison et la santé et je les guérirai. Comment? Je leur découvrirai une abondance de paix et de quoi? Je leur découvrirai une abondance de paix et de vérité. Est-ce que la vérité est importante? Je vais même vous poser une autre question encore plus lourde de sens. Est-ce que la vérité est importante pour notre guérison? Est-ce que la vérité est importante pour notre bonheur? Est-ce que la vérité est importante pour notre salut? Dieu a dit, je les guérirai. Et il a dit, voilà comment je vais les guérir. Je leur découvrirai une abondance de paix et de vérité. Allez avec moi dans les Proverbes, le livre des Proverbes, chapitre 3 et versets 5 à 8. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta prudence. Considère-le dans toutes tes voies, et il dirigera tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Qu'est-ce qui sera la santé pour mes muscles et un rafraîchissement pour mes os? Lorsque je me confie en l'Éternel de tout mon cœur et que je ne m'appuie point sur ma prudence. Parce que il n'est pas dans le pouvoir de l'homme de diriger ses pas. Et qu'est-ce que l'on nous dit de plus? Verset 3, que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent point, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Et donc, qu'est-ce que c'est qui revient à notre attention ici? Nous avons vu, il enverra sa bonté et sa vérité dans notre lecture biblique. Et ici, qu'est-ce que c'est? Que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent point, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Vous allez me dire, mais Frère Victor, qu'est-ce qu'il y a de vraiment important là-dedans? Je vais vous dire. Aujourd'hui, nous entendons beaucoup parler, et notamment dans les cercles adventistes, nous entendons beaucoup parler de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que l'amour de Dieu est important? Absolument! Absolument, vous ne pouvez pas faire sans. Et n'essayez pas de faire sans. Simplement, il y a un problème. Parce que la parole de Dieu parle de paix et de vérité, de sa bonté et de sa vérité, de la miséricorde et la vérité. Ces deux choses sont unies, n'est-ce pas? Elles sont présentées de manière indissociable dans la parole de Dieu. Sauf que aujourd'hui, les choses que nous voyons, c'est que nous entendons beaucoup parler de l'amour de Dieu, mais nous retenons notre souffle en vain, en attendant d'entendre parler de la vérité. Nous écoutons, nous tendons l'oreille, nous attendons, mais rien. Rien n'est dit au sujet de la vérité. Et c'est la raison de notre méditation aujourd'hui. Vous allez voir que petit à petit, à mesure que nous avançons, le poids de l'importance de la vérité s'agrandit. Que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent point, pluriel. Que les deux ne t'abandonnent point. Donc si je parle de la miséricorde de Dieu sans arrêt, mais que je n'ai rien dit sur la vérité, y a-t-il un problème? Et plus encore, ai-je déclaré la parole de l'Éternel? Est-ce que je l'ai déclaré? Nous allons voir. Tendez l'oreille avec moi, frères et sœurs. Tendons l'oreille à la parole du Seigneur. Allons dans notre lecture biblique, le psaume 57, versets 2 à 4. Donc c'est ce que nous avons vu, le pécheur, il crie à Dieu. Est-ce que vous criez à Dieu parfois? J'espère que nous crions à Dieu souvent. Et si nous ne crions pas à Dieu, cette étude est destinée à déclencher en nous le cri à Dieu. Parce que si nous ne crions pas à Dieu, cela veut dire que nous sommes suffisants. Et qu'est-ce que le témoin fidèle et véritable dit à la dernière église de la fin des temps, à l'église de Laodicée? Que lui dit-il? Tu dis que tu es riche, que tu t'es enrichi et que tu n'as besoin de rien. Mais telle n'est pas ta véritable condition. Donc être suffisant, c'est le pire des sorts qui puissent nous arriver, frères et sœurs. Et c'est pour cela qu'il nous faut permettre à l'Esprit de Dieu de nous rendre sensibles. Rendre sensible, cela veut dire que je me sentirai vulnérable. Si je me sens vulnérable, cela veut dire que je vais ressentir mon besoin de Dieu. Si je ne me sens pas vulnérable, je ne ressentirai pas mon besoin de Dieu et je me sentirai suffisant. Vous comprenez l'importance de ces choses? C'est important de permettre à l'Esprit de Dieu de secouer. Pas de lever la muraille du pharisien et de dire « Boum, ça ne me concerne pas tout ça, tu continues de prêcher là ?» Non, rien de tout cela. Laissez-la tomber, cette barrière. Le pécheur dit « Aie pitié, ô Dieu, aie pitié de moi, car mon âme se retire vers toi. » Je me réfugie sous l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, à Dieu qui accomplit son œuvre pour moi. Et lorsque le pécheur exerce sa foi d'une telle manière puissante et sincère, lorsqu'il dit cela, qu'est-il en droit d'attendre maintenant? Qu'est-ce que le pécheur est maintenant en droit d'attendre de la part de Dieu en réponse à cette prière? En réponse à cette prière, aie pitié, ô Dieu, aie pitié de moi. Je me retire vers toi, je me réfugie sous l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, qui accomplit son œuvre pour moi. Donc, il accomplit son œuvre pour moi. Qu'est-ce que le pécheur est en droit d'attendre en réponse à cette prière? Il enverra des cieux et me sauvera. Il rendra honteux celui qui me poursuit. Dieu enverra sa bonté et sa vérité. Qu'est-ce que le pécheur est en droit d'attendre de la part de Dieu en réponse à cette prière d'invocation, de supplication pour son aide, son amour, son pardon? Dieu enverra des cieux et me sauvera. Comment? Dieu enverra sa bonté et sa vérité. Est-ce que Dieu va faire quelque chose de manière à invoquer les capacités de notre intelligence pour nous sauver maintenant? Dieu va envoyer des cieux et me sauver. Et donc, aujourd'hui, le christianisme moderne va répondre à cela. Mais alléluia, il va faire quelque chose de magique, il va faire quelque chose de miraculeux. Mais qu'est-ce qui est écrit? Dieu enverra sa bonté et sa vérité. Donc c'est une chose, il envoie sa bonté en réponse à mon cri pour son amour. Il enverra sa bonté. Celui qui, si nous confessons nos fautes, il est fidèle pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Il enverra sa bonté. Sa bonté ne faille pas. Son amour persévère et persiste. Mais quoi d'autre? Quoi d'autre? Qu'enverra-t-il avec sa bonté? Sa vérité. Ah, et donc si Dieu envoie des cieux pour me sauver et qu'il envoie la vérité, y a-t-il une activité et dans laquelle il m'incombe de m'engager maintenant? Et vous voyez, ce n'est pas quelque chose de passif. Il y a quelque chose, pas simplement d'actif, mais quelque chose qui nécessite l'activité de mon intelligence spirituelle. Est-ce que la vérité est importante? Et maintenant, à la lumière de toutes ces choses, frères et sœurs, nous avons vu que Dieu se propose en réponse à nos prières contrites, à nos prières de repentance, à nos supplications adressé à lui, nous avons vu que Dieu se propose d'envoyer sa bonté et sa vérité, de nous découvrir une abondance de paix et de vérité. Mais aujourd'hui, il est une condition de choses dans le monde qui va directement dans le sens inverse de cette activité exercée par Dieu lui-même et les saints anges et le Saint-Esprit par Jésus-Christ. On la trouve exprimée dans 2 Timothée, chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4 et versets 3 à 4. Où ici l'apôtre Paul déclare à Timothée en disant ceci. Car il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise et fermeront l'oreille à la vérité et se tourneront vers des fables. Il y aurait un temps où les hommes ne souffriraient point la saine doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseraient des docteurs selon leur convoitise et fermeraient l'oreille à la vérité et se tourneraient vers des fables. Est-ce que cette condition de choses qui est décrite ici nous concerne? L'esprit de prophétie nous dit que ce temps est venu. Ce temps était venu déjà en 1888, telle était déjà la réalité. C'est que les hommes ne souffrent plus la saine doctrine, c'est-à-dire la bonne doctrine, la sainte doctrine, la doctrine qui est saine, qui est pure, mais ils désirent d'entendre des choses agréables. Ils se choisissent des docteurs selon leur convoitise et ils ferment l'oreille à la vérité. J'aimerais vous lire une déclaration de l'esprit de prophétie que l'on trouve dans le livre Conquérant Pacifique à la page 450 au paragraphe 3 et 4. Tous ceux qui font profession d'être chrétiens et qui croient pouvoir instruire les autres finiront par se détourner des exigences de Dieu s'ils s'enorgueillissent de leur sagesse humaine en méprisant l'influence du Saint-Esprit et les vérités de la parole de Dieu. Paul déclarait à Timothée, car il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise et fermeront l'oreille à la vérité et se tourneront vers des fables. L'apôtre ne fait pas allusion ici aux hommes qui se déclarent ouvertement irreligieux, mais à ceux qui font profession d'être chrétiens, qui prennent leur penchant comme ligne de conduite et deviennent ainsi esclaves de leur propre personne. Ces personnes-là ne sont prêtes à entendre que les doctrines qui ne condamnent ni leur péché, ni leur vie de plaisir. Je relis. Ces personnes-là ne sont prêtes à entendre que les doctrines qui ne condamnent ni leur péché, ni leur vie de plaisir. Ils sont offensés par les paroles sévères des fidèles serviteurs de Christ et ils préfèrent se choisir des docteurs qui les flattent et les encouragent. Parmi ceux qui se disent ministres, certains enseignent des théories humaines au lieu de prêcher la parole de Dieu. Étant infidèles à leur charge, ils égarent ceux qui cherchent en eux un guide spirituel. Est-ce que vous avez relevé les choses qui nous sont ici présentées? Il s'agit ici, les personnes qui sont décrites, ces hommes qui ne souffrent point la saine doctrine, il s'agit ici de personnes qui font profession d'être chrétiens, mais qui prennent leur penchant comme ligne de conduite et qui deviennent ainsi esclaves du moi. Ici, c'est esclaves de leur propre personne. En anglais, c'est esclaves du moi. Esclaves de quoi? Esclaves des impulsions de la chair. Pourquoi? Parce qu'ils prennent leur penchant comme ligne de conduite. Ce sont des personnes qui ne marchent pas selon l'esprit, en toute réalité. Et pour cette raison, parce que ils vivent de cette manière, que lisons-nous de plus à leur sujet? Ces personnes-là ne sont prêtes à entendre que les doctrines qui ne condamnent ni leur péché, ni leur vie de plaisir. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils ne souffrent point la saine doctrine? Parce que la saine doctrine condamne leur péché et leur vie de plaisir. Et pour cette raison, qu'est-ce que nous lisons? Ils ferment l'oreille à la vérité. Pourquoi est-ce que les hommes fermeraient-ils l'oreille à la vérité? Parce que ils sont offensés par les paroles sévères des fidèles serviteurs de Christ. Offensés parce que ces paroles mettent en lumière et dévoilent et révèlent leurs péchés et leur vie de plaisir. Il se peut que vous ne péchiez pas de manière complètement ouverte, mais si vous menez une vie de plaisir pour mon propre plaisir, pour mon propre profit, pour mon propre agrandissement, pour mon propre confort, comment vous viendra la parole de Dieu? Comment ressentirez-vous la parole de Dieu, cette saine doctrine? Comment sera-t-elle reçue par vous, par moi, si je chéris, si je nourris le péché, ou si je mène une vie de plaisir? Cette parole me paraîtra sévère et je renoncerai à y écouter. Vous savez, c'est très important ces choses-là. Parce que voilà une chose que Dieu a ordonné de donner à son peuple pour les purifier. Rappelez-vous de ce qu'il y avait écrit dans Jérémie chapitre 33. Il leur découvrira, je leur découvrirai une abondance de paix et de vérité. Seulement, la vérité vient à un prix. C'est le prix de nos péchés et de notre vie de plaisir. Donc, si je veux vraiment que Dieu me pardonne, que Dieu me donne ce bonheur-là dont il est question, me rende prospère, il s'agit de m'envoyer sa bonté et sa vérité. Et sa vérité va condamner mes péchés et ma vie de plaisir si telle est la vie que je mène. Vous comprenez, la vérité est impérative, seulement la vérité vient à un prix et certains, ne voulant pas payer ce prix, se détournent de la saine doctrine et s'amassent des docteurs selon leur convoitise et ferment l'oreille à la vérité. Ils se détournent de la saine doctrine et donc ceux qui prêchent la saine doctrine se retrouvent avec une toute petite compagnie et ils se dirigent, ils se choisissent, comme c'est écrit ici, des docteurs qui les flattent et les encouragent et viennent enfler les assemblées qui sont attachées à ces docteurs. Et ces docteurs s'en vont prêcher davantage ces choses qui ne sont pas approuvées par Dieu. Et ceux qui prêchent la saine doctrine se voient réduits à petit effectif. Et donc vous vous demandez si vous êtes dans cette condition de choses-là, du bon côté de la scène, vous vous demandez, mais peut-être qu'il y a un problème là. Peut-être qu'il faut aller là où il y a du monde. Vous comprenez? Parce que les hommes ne souffrent point la saine doctrine. Si la saine doctrine était saine, mais qu'elle approuvait mes péchés, les personnes accepteraient la saine doctrine. Mais la saine doctrine présente Jésus-Christ et lui crucifié et ma vie égoïste en contraste avec sa vie de renoncement total. Nous avons lu juste au début, c'est très très important, relevez cela avec moi, je vous en prie. Tous ceux qui font profession d'être chrétiens et qui croient pouvoir instruire les autres finiront par se détourner des exigences de Dieu s'ils s'enorgueillissent de leur sagesse humaine en méprisant l'influence du Saint-Esprit et les vérités de la parole de Dieu. Donc, si je fais profession d'être chrétien et que je crois pouvoir instruire les autres, mais que je m'enorgueillis de ma sagesse, je ne peux pas me guider moi-même, mais si je m'enorgueillis de ma sagesse, en méprisant l'influence du Saint-Esprit et les vérités de la parole de Dieu, quand bien même j'instruis les autres, quand bien même je fais profession d'être chrétien, je finirai par me détourner des exigences de Dieu. Comprenez le terrible danger? Il se peut qu'au début je prêche la parole de Dieu, mais si je m'enorgueillis de ma sagesse, nous allons explorer cela, si je m'enorgueillis de ma sagesse humaine, si je crois que je peux me guider, sans faire vraiment référence constamment à la parole de Dieu et au conseil de l'esprit de prophétie, si je m'enorgueillis de ma sagesse humaine et que je méprise l'influence du Saint-Esprit et les vérités de la parole de Dieu, je finirai par suivre un autre chemin. Je resterai peut-être dans la grande organisation. Il n'y a pas de problème. Satan n'a aucun problème avec cela. Vous pouvez rester autant que vous voulez dans la grande organisation. Il est complètement d'accord avec cela. Mais en restant dans la dénomination, dans la confession, je me détournerai des exigences de Dieu. Comme nous lisions, parmi ceux qui se disent ministres, certains enseignent des théories humaines au lieu de prêcher la parole de Dieu. Étant infidèles à leur charge, ils égarent ceux qui cherchent en eux un guide spirituel. Vous comprenez? Ils ont été chargés d'une responsabilité. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font après? Ils enseignent des théories humaines. Et la parole de Dieu, elle va à la trappe. Et étant ainsi infidèles à leur charge, ils égarent ceux qui cherchaient en eux un guide spirituel. Les gens regardent à eux, ils espèrent trouver des directions spirituelles, mais parce que eux, ils sont infidèles, eh bien, ils s'en vont détourner le peuple de la vérité. Comme c'est sérieux, frères et sœurs. Comme c'est sérieux. Et une autre déclaration de l'esprit de prophétie se trouve dans Conseil à l'Église à la page 263 et au paragraphe 6. Encore en rapport avec ce passage. Il m'a été montré que ce dont le peuple a besoin, ce ne sont pas des doctrines nouvelles et fantaisistes, ni des théories humaines. Ce qu'il leur faut, c'est le témoignage d'hommes qui connaissent et qui pratiquent la vérité. D'hommes qui comprennent la mission dont fut chargé Timothée et qui y obéissent. Deux points. Prêche la parole, insiste en temps et hors de temps, reprend, censure, exhorte en toute patience et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la saine doctrine, etc. Donc l'esprit de prophétie ici nous dit que ce dont le peuple a besoin, ce ne sont pas des doctrines nouvelles et fantaisistes. Est-ce que vous voyez cela aujourd'hui dans l'adventisme en général? Nous avons entre les mains les écrits de l'esprit de prophétie. Nous avons entre les mains le message du premier ange. Nous avons entre les mains la spiritualité du message du deuxième ange. Nous avons entre les mains les avertissements solennels nous concernant nous-mêmes du message du troisième ange. Et devant nous, les derniers événements apocalyptiques de la fin des temps qui s'annoncent à la fois par la parole et par le déroulement politique et international, mais des personnes pensent que ce dont le peuple a besoin maintenant, ce sont des idées, des présentations nouvelles et fantaisistes. Des doctrines nouvelles et fantaisistes. Des théories humaines. Vous comprenez le dilemme maintenant? Nous avons vu que la vérité est importante. Nous avons vu que Dieu a ordonné que sa vérité fasse partie intégrante du salut. Simplement maintenant, en ces derniers jours, nous sommes à la fin, au bout du quatrième ange d'Apocalypse chapitre 18, maintenant, des efforts sont faits de part et d'autre pour présenter non pas la nourriture en temps convenable, mais de nouvelles doctrines et des doctrines fantaisistes. Mais l'esprit de prophétie nous dit que ce qu'il faut au peuple, ce qu'il leur faut, c'est le témoignage d'hommes qui connaissent et qui pratiquent la vérité. En d'autres termes, si je connais la vérité, mais que je ne la pratique pas, je ne vous serai d'aucun profit. Et je ne pourrai vous blâmer si vous vous êtes détourné de ce que je dis. Donc la question est de savoir, est-ce que je connais la vérité et est-ce que je démontre que je la pratique? Parce que ce qu'il faut au peuple, c'est le témoignage de tels hommes qui connaissent et qui pratiquent la vérité, d'hommes qui comprennent la mission dont fut chargé Timothée. Prêche la parole, car il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la saine doctrine. Et la même déclaration, elle continue en disant, Marchez avec fermeté et décision, vos pieds chaussés de l'évangile de paix. Soyez persuadés que la religion pure et sans tache n'est pas une religion à sensation. Dieu n'a chargé personne de faire naître le goût des doctrines et des théories spéculatives. Mes frères, écartez ces choses de votre enseignement. Ne leur permettez pas de s'introduire dans votre expérience religieuse. Ne les laissez pas gâter l'œuvre de votre vie. Qu'est-ce qu'elle dit ici? Écartez ces choses de votre enseignement. Écartez-les. Sortez-les de votre enseignement, ce goût pour les doctrines et les théories spéculatives. Est-ce que vous voyez cela? Est-ce que vous discernez cela de vos propres yeux aujourd'hui, dans les cercles adventistes? De tous bords, je vois de mes propres yeux ce fait exact et précis. Que les personnes qui pensent que Dieu les a appelés à enseigner, ils présentent au peuple et ils font naître dans le peuple le goût des doctrines et des théories spéculatives et en même temps, il leur dérobe le goût pour la vérité présente. Il leur dérobe le goût pour la nourriture en temps convenable. La nourriture pour ce temps-ci. Du message des trois anges. Et du quatrième ange. Mes frères, écartez ces choses de votre enseignement. Et donc, nous avons vu que c'est là la condition actuelle du monde chrétien, et tout particulièrement des cercles, des milieux adventistes, que les hommes ne souffrent point la saine doctrine et ferment l'oreille à la vérité et se tournent vers des fables. Et maintenant, à la lumière de cela, on veut se tourner vers le passage de Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23 et versets 28 et 29. Que le prophète qui a un songe raconte le songe et que celui qui a ma parole prononce ma parole en vérité. Qu'a à faire la paille avec le froment, dit l'Éternel. Qu'a à faire la paille avec le froment, dit l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui parlent d'eux-mêmes et qui disent, il a dit. Vous comprenez ce que ça veut dire maintenant? Dieu dit ici, qu'a à faire la paille avec le froment. Parce que ici, vous aviez ces prophètes qui disaient qu'ils prophétisaient au nom de Dieu, mais qui disaient des choses qu'il ne leur avait pas donné à déclarer. Parce que si vous lisez au verset 25, il dit « J'ai entendu ce que disent ces prophètes qui prophétisent le mensonge en mon nom en disant « J'ai eu un songe, j'ai eu un songe. » Jusqu'à quand ont-ils la pensée, ces prophètes, qui prophétise le mensonge, prophètes de la tromperie de leur cœur, ont-ils le projet de faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal? Que le prophète qui a un songe raconte le songe, et que celui qui a ma parole prononce ma parole en vérité. Nous avons, en harmonie avec ces déclarations, cette description de 2 Timothée, nous avons aujourd'hui une réalité où, comme ces pasteurs qui sont décrits dans Ézéchiel, les gens lisent la parole de Dieu, ils voient tous les trésors de la parole de Dieu, ils absorbent ces trésors et ils en retirent un profit spirituel non négligeable. Seulement après, quand ils s'en vont présenter la parole au peuple, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de prononcer sa parole en vérité, ils prononcent leur propre parole. Et la raison pour laquelle c'est un problème, c'est que Dieu dit ici, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Donc le Seigneur, il dit ici, « Ma parole n'est-elle pas suffisante ? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc ? Ma parole ne fera-t-elle pas ce que vous cherchiez à faire avec vos propres paroles ?» Mais non, il faut qu'ils prononcent leurs propres paroles, qu'ils essayent de présenter l'enseignement de la parole de Dieu, mais au lieu de réutiliser ce que Dieu a dit, ils s'en vont déclarer les choses que Dieu a dit avec leurs propres mots, sauf qu'à force de tergiverser dans leur propre expression de la vérité de la parole de Dieu, ils commencent à dire des choses qui ne sont pas écrites. Vous comprenez pourquoi je suis tout le temps en train de revenir vers la parole de Dieu? Parce que nous ne voulons pas dire des choses que Dieu n'a pas dites. Mais aujourd'hui, il dit, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui parlent d'eux-mêmes et qui disent, il a dit. Vous comprenez? Nous déclarons, nous parlons, nous disons, Dieu dit ceci, Dieu dit cela, et en une heure, personne n'a jamais lu la Bible. Comment c'est possible, ça, frères et sœurs? Je ne comprends pas. Si nous voulons répondre aux injonctions de la parole, notamment à celle à Timothée, prêche la parole, pas prêche ta parole, pas prêche tes pensées, pas prêche tes opinions, pas prêche tes théories, prêche la parole. Parce qu'il viendra un temps où les gens ne souffriront point la saine doctrine. Mais même si ce temps est arrivé, continue de prêcher la parole. Même s'il y a si peu de gens qui écoutent, continue de prêcher la parole. Il disait à Timothée, profite parce qu'il va y avoir un temps où ça ne sera pas aussi facile que ça l'est aujourd'hui. Mais nous sommes aujourd'hui dans ce temps qui était prophétisé ici par l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 4. Et la réalité à laquelle nous sommes confrontés, c'est ces choses qui sont écrites ici, dans Jérémie 23. Verset 32. Écoutez cela. « Voici, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes de fausseté, dit l'Éternel, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. » Bien que je ne les ai pas envoyés et que je ne leur ai point donné de charge en sorte qu'ils n'apportent aucun profit à ce peuple, dit l'Éternel. Et maintenant, j'aimerais lire
la Bible Martin
pour ce passage qui est très bien rendu dans cette version, toujours dans Jérémie chapitre 23, commençant au verset 33. Si donc ce peuple t'interroge ou qu'il interroge le prophète ou le sacrificateur en disant « Quelle est la charge de l'Éternel ?» Tu leur diras « Quelle charge ? Je vous abandonnerai, dit l'Éternel. » Et quant au prophète et au sacrificateur et au peuple qui aura dit « La charge de l'Éternel, je punirai cet homme-là et sa maison. » Vous direz ainsi, chacun à son compagnon et chacun à son frère, qu'a répondu l'Éternel et qu'a prononcé l'Éternel. Et vous ne ferez plus mention de la charge de l'Éternel, car la parole de chacun lui sera pour charge, parce que vous avez perverti les paroles du Dieu vivant, les paroles de l'Éternel des armées, notre Dieu. Tu diras ainsi au prophète que t'a répondu l'Éternel et que t'a prononcé l'Éternel. Et si vous dites la charge de l'Éternel, à cause de cela a dit l'Éternel, parce que vous avez dit cette parole, la charge de l'Éternel, et que j'ai envoyé vers vous pour vous dire, ne dites plus la charge de l'Éternel, à cause de cela, mon voici, et je vous oublierai entièrement, et j'arracherai de ma présence, et vous, et la ville que j'ai donnée à vous et à vos pères, et je mettrai sur vous un opprobre éternel, et une confusion éternelle qui ne sera point mise en oubli. Est-ce que vous comprenez ce qu'on a lu ici? C'est très important que l'on discerne vraiment le sens des paroles. Dans la Bible Osterwald, il y a écrit, pour la charge de l'Éternel, il y a écrit « Quelle est la menace de l'Éternel ?» Parce que au temps de Jérémie, les Juifs en avaient assez d'entendre Jérémie sans cesse répandre sur eux la condamnation de Dieu. Et ils ont dit « Bon, qu'est-ce que c'est maintenant la charge de l'Éternel encore une fois ?» Parce que le même mot « charge » ici, en hébreu, cela veut dire à la fois une prophétie et à la fois un fardeau. Et donc, il jouait sur les mots. Il disait, quelle est la prophétie? Quel est le fardeau de l'Éternel? Dans la Bible Sassi, c'est traduit par, quel est le fardeau de l'Éternel? Dans la Bible Osterwald, c'est la menace de l'Éternel. Et dans la Bible Darby, de la même manière que dans la King James, c'est la charge de l'Éternel. Parce que la charge, c'est directement lié aussi à ce dont le prophète est chargé. Dieu le charge d'une mission. Dieu le charge d'une parole. Dieu lui confie un message. Et donc, il y avait ce ton de moquerie et d'insulte dans ces personnes qui disaient « Quelle est la menace de l'Éternel? Quelle est sa charge? Quelle est sa prophétie? Quel est son oracle ?» Mais il y a aussi un autre aspect qui est absolument important ici, c'est que vous avez aujourd'hui des personnes qui disent « Le Seigneur m'a chargé de cela » ou « Je vois que le Seigneur m'a donné cette responsabilité » ou « Je discerne dans la parole de Dieu ceci, cela » mais Dieu dit « Je ne les ai pas envoyés » Il dit voilà « Voici j'en veux » verset 32 « Voici, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes de fausseté, dit l'Éternel, et qui les récitent et font égarer mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité, quoique je ne les ai point envoyés et que je ne leur ai point donné de charge. C'est pourquoi ils ne profiteront de rien à ce peuple, dit l'Éternel. Ils n'apportent aucun profit à ce peuple. Comme c'est écrit dans Osterwald, n'apporte aucun profit. Vous voyez, lorsque nous présentons la parole de Dieu, il faut que nous profitions au peuple. Il faut que le peuple de Dieu soit profité par la présentation de la parole de Dieu. Mais au lieu de cela, Aujourd'hui, nous disons, aujourd'hui, nous allons étudier la parole de Dieu et pendant une heure, jamais nous ne lisons un seul texte de la Bible. Comment c'est possible, ça, frères et sœurs? Mais ce qui se passe, c'est que j'essaie tant bien que mal de redire ce que Dieu a dit au lieu d'ouvrir. Ouvrons. Juste ouvrir la parole de Dieu. On peut faire cela? Mais donc, il dit maintenant, au verset 35, l'appel du Seigneur vis-à-vis de l'importance de la vérité. Il dit, vous direz ainsi, chacun à son compagnon et chacun à son frère. Qu'a répondu l'Éternel et qu'a prononcé l'Éternel? Pas qu'est-ce qu'a dit ce prédicateur, pas qu'est-ce qu'a dit ce pasteur, pas qu'est-ce qu'enseigne cette personne, etc. Non, rien de tout cela. Qu'a répondu l'Éternel et qu'a prononcé l'Éternel? C'est cela que nous voulons savoir. Et si quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas écrit, nous savons que ce songe ne vient pas du Seigneur, que cette présentation ne vient pas du Seigneur. Et donc les faux prophètes qui prétendent avoir reçu une charge de Dieu, mais qui ne déclarent pas sa parole, ou qui ne la présentent qu'en partie et donnent ainsi de la paille au peuple de Dieu, sont ici dénoncés. De la paille, n'est-ce pas? Ce que nous avions lu? Qu'est-ce que c'était? Il dit que celui qui a ma parole prononce ma parole en vérité, qu'a à faire la paille avec le froment, dit l'Éternel. Très intéressant. Ici, il met deux choses en contraste l'une avec l'autre. Qu'a à faire la paille avec le froment. Cela sous-entend quelque chose, et au lieu de moi vous expliquer ce que cela sous-entend, j'aimerais vous lire cette déclaration de A.T. Jones, Alonzo Trevor Jones, dans la revue Signs of the Times du 25 février 1886, où il déclare ces paroles remplies de bon sens biblique. Écoutez ce frère. Il dit, la parole de l'homme, c'est la paille. La parole de Dieu, c'est le froment. Donnez au peuple la parole de Dieu, le froment, et ils auront du pain. Ils auront de quoi manger. Mais donnez-leur les paroles des hommes, et assurément, ils ont de la paille. De la paille. Qu'est-ce que nous donnons au peuple de Dieu? Est-ce que nous donnons au peuple de la paille ou est-ce que nous leur donnons le froment de la parole de Dieu? Donnez-leur les paroles des hommes et assurément, ils ont de la paille. Donc si je vais écouter, écoutez-moi frères et sœurs, si je m'en vais maintenant écouter des heures durant les paroles des hommes et que ces paroles ne sont pas soutenues, ne sont pas fortifiées, ne sont pas maintenues par la parole de Dieu, mais que ces paroles sont des raisonnements charnel ou de ma propre sagesse humaine, est-ce que ces choses vont me profiter? Est-ce que je vais en retirer un profit? Est-ce que je vais pouvoir manger? Le frère Eddie Jones, il disait, donnez au peuple la parole de Dieu, le froment, et ils auront du pain, ils auront de quoi manger. C'est très important. Lorsque nous présentons la parole de Dieu, il s'agit de donner au peuple de quoi manger. C'est-à-dire que lorsque vous donnez à un animal de quoi manger, il va le manger pendant longtemps, vous lui donnez une grande quantité, il ne s'agit pas d'un repas. Donc, pour les animaux, du moins pour une brebis, si vous leur donnez à manger de la pâture, ils vont la manger encore et encore, ils vont se nourrir pendant des heures et des jours durant. Vous comprenez? Il ne s'agit pas d'un repas de 20-30 minutes, ils vont la manger, ils vont marcher, paître, jusqu'à ce qu'ils aient vidé leur pâture et qu'il faille les changer de parc. Et c'est la même chose dont nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu, qui avons besoin d'être guidés par Dieu et qui n'avons pas en nous-mêmes le pouvoir de diriger nos propres pas. Nous avons besoin que Dieu, d'avoir de la part de Dieu, venant de Dieu, la nourriture convenable à chaque moment de notre vie, quelque chose sur quoi nous pouvons nous nourrir. Nous avons besoin d'avoir de quoi manger, d'avoir du pain. Comme Jésus a dit, je suis le pain vivant. Et donc, si je veux donner au peuple Jésus, j'ai besoin de donner au peuple la parole de Dieu, le froment. Mais si je leur donne mes propres paroles, sans arrêt, mes propres paroles, sans me fonder sur la parole de Dieu, je leur donne de la paille. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Et ça fait aussi réfléchir vis-à-vis de ce que moi je fais dans ma recherche de la vérité. Est-ce que je vais pouvoir me nourrir en écoutant des personnes qui sont sans cesse en train de présenter leurs propres paroles? Le Seigneur a dit que le prophète qui a un songe raconte le songe, qui raconte exactement le songe. Qui ne disent pas ses propres paroles, qui disent le songe mot pour mot comme il l'a reçu de Dieu. Mais si nous n'avons pas beaucoup de songes, alors il dit pour nous aujourd'hui que celui qui a ma parole, qui a ma Bible, prononce ma parole en vérité. Pas prononce ce qu'il croit de ce que ma parole dit. Pas prononce ce dont il se souvient de ce que ma parole dit. Pas prononce son l'interprétation de ce que ma parole veut dire, qu'il prononce ma parole en vérité. Oui. Et donc maintenant, pour conclure notre méditation, frères et sœurs, j'aimerais lire ce passage de l'esprit de prophétie, où il y a quelque chose d'assez prenant, cette direction qui nous est donnée par la sœur White. Écoutez avec moi. Dans Premiers Écrits, à la page 124 et au paragraphe 2, elle dit « Les différents groupes qui professent des croyances adventistes possède chacun une parcelle de vérité. Mais Dieu a confié toutes ces vérités à ses enfants qui se préparent pour le jour de Dieu. Il leur a aussi donné certaines vérités qu'aucun de ces groupes ne connaît et encore moins ne comprend. Ce sont des choses qui sont scellées pour eux, mais que le Seigneur a révélées à ceux qui sont prêts à voir et à comprendre. Si Dieu a quelque nouvelle lumière à communiquer, il en donnera l'intelligence à ses élus, sans qu'ils aient besoin d'en demander l'explication aux hommes qui sont dans les ténèbres de l'erreur. Il m'a été montré combien ceux qui croient avoir le dernier message de miséricorde ont besoin d'être séparés de ceux qui chaque jour adoptent de nouvelles erreurs. J'ai vu que ni jeunes ni vieux ne devaient assister à leur réunion, car ce serait mal faire que de les encourager alors qu'ils distillent des erreurs qui sont un venin mortel à l'âme et enseignent des doctrines qui sont des commandements d'hommes. L'influence de telles réunions n'est pas bonne. Si le Seigneur nous a fait sortir des ténèbres de l'erreur, il nous faut rester fermes dans la liberté qu'il nous a acquise et nous réjouir dans la vérité. Nous encourons le déplaisir de Dieu si nous allons écouter l'erreur sans y être obligés, car à moins qu'il ne nous envoie à ces réunions où l'erreur est inculquée, par la force de la volonté, il ne nous gardera pas. Les anges cessent de veiller sur nous et nous sommes à la merci de l'ennemi dans les ténèbres affaiblies par sa puissance et celle de ses mauvais anges. La lumière qui nous entoure est contaminée par les ténèbres. J'ai vu que nous n'avions pas de temps à perdre en écoutant des fables. Nos esprits ne doivent pas être ainsi distraits, mais ils devraient être occupés par la vérité présente. Il nous faut rechercher la sagesse afin de pouvoir obtenir plus de connaissances en ce qui concerne notre position et, avec douceur, donner les raisons de notre espérance d'après les Écritures. Tant que de fausses doctrines et des erreurs dangereuses occupent notre esprit, nous ne pouvons approfondir la vérité qui doit préparer la maison d'Israël à subsister au jour de l'Éternel. Voilà, nous n'avons pas de temps à perdre en écoutant des fables, encore moins en les enseignant. Et donc, si nous voulons être préparés au jour de Dieu, il faut que nos esprits ne soient pas ainsi distraits par la contemplation de ces erreurs et en écoutant ces fables, mais il faut que nos esprits soient occupés par la vérité présente. Et cela, frères et sœurs, ça va nécessiter de notre part que nous restions fermes dans la liberté que Dieu nous a acquise et que nous nous réjouissions dans la vérité. Et j'ai vu à travers ma propre expérience que pour nous réjouir dans la vérité, nous ne pouvons le faire que si nous nous détournons des fables et des erreurs, de ces enseignements qui semblent agréables à notre intelligence, mais qui à la fin, nous réalisons, n'étaient que de la paille, n'étaient que des paroles des hommes. C'est vraiment impératif que nous réalisions l'importance de la vérité et que réalisant ainsi l'importance de cette vérité, nous tournions nos pas là où le Seigneur dirige nos pas. Comme nous avions lu dans Proverbes chapitre 3, « Confie-toi en l'Éternel, ne te fie pas en ta propre sagesse, mais suis-le là où il te guide. » Et il a dit, je leur découvrirai une abondance de paix et de vérité. Il enverra sa bonté et sa vérité pour nous sauver. Et donc, par la grâce de Dieu, c'est ce que, à travers ce message, il désire faire. C'est nous sauver et nous étreindre dans sa bonté, son amour et sa vérité. Et vous vous rappellerez, Jésus a dit, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et il disait Jésus aussi dans Jean chapitre 14 verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et donc, est-ce que il y a en Jésus-Christ beaucoup de vérité et un peu d'erreur? Est-ce que la vérité, la pure vérité est importante? Nous lisons dans 1 Jean chapitre 1 verset 5 que en Dieu, en lui, il n'y a point de ténèbres. Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Il n'y a point d'erreur en Dieu. Et donc si nous voulons recevoir le Seigneur Jésus et marcher avec lui, il s'agit de comprendre que Jésus est le chemin et la vérité et la vie et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Et donc ce n'est pas sa volonté que nous allions là où une grande partie de la vérité est enseignée, mais qu'il y a aussi une petite partie d'erreur. Parce que rappelez-vous, un petit peu de levain fait lever toute la pâte. Mais il n'y a point de ténèbres en Dieu. Pas une seule nuance. Dieu est lumière. Et Dieu est vérité de la même manière qu'il est lumière. Il est la pleine lumière. Il est la pleine vérité. Et il n'y a point de ténèbres ni d'erreur en lui. Réfléchissons, frères et sœurs, à ces choses-là et méditons à l'impact que cette réalité aura sur nous en ces derniers jours. Et rappelez-vous de ce que le Seigneur a dit dans Jean chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. Nous serons libres, libres de l'influence de ces mauvaises réunions, libres de ces réunions où les erreurs sont enseignées. Nous serons libres de marcher en harmonie avec ce dernier message de miséricorde, libres de rester ferme dans la liberté qu'il nous a acquise et de nous réjouir dans la vérité. Et c'est comme cela, frères et sœurs, que nous pourrons faire partie de ceux qui sont préparés à subsister au jour de l'Éternel. Il nous faut approfondir la vérité parce que c'est la vérité qui doit préparer la maison d'Israël à subsister au jour de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse chacun de vous et chacun de nous et nous accompagne pour rappeler à notre mémoire l'importance de la vérité et envoyer du ciel pour nous sauver par sa bonté et sa vérité. Amen.